France Inter.
Auditeurice qui nous écoutait en podcast, c'est l'heure de l'apéro avec Lamia Essemlali. C'est la présidente de Sea Shepherd, l'association. Vous la voyez souvent aux côtés de Paul Watson. Et moi, j'ai eu envie de savoir qui était cette jeune femme pirate. Ouais, c'est une pirate, hein, carrément.
Bonjour, bonjour. Ça va, Charline ?
Mais oui, enchantée.
Merci d'être
bonjour
là.
Bonjour tout le monde, avec plaisir.
En direct de Bretagne ?
Eh ben non, là j'arrive de Marseille, figure-toi, où j'ai donné une conférence hier soir.
Ouais,
au MUCEM, sur les mammifères marins pour changer.
Bon, comment ça se passe la suite des inondations en Bretagne, là, ça va ?
Écoute, nous on a été épargnés sur l'Orient, ça va. Mais ça a vraiment compliqué la ligne TGV Paris-Lorient.
T'as pas croisé une baleine sur le chemin, je veux dire ?
Non, même pas. Heureusement, hein, j'ai envie de te dire, j'ai assez de boulot comme ça.
Bah écoute, c'est l'heure de l'apéro. Moi, je suis ravie de te rencontrer, de discuter avec toi. T'es ma première pirate.
C'est vrai ? Quel honneur.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Lamia Essemlali, vous êtes présidente de l'association Sea Shepherd France. On vous a vu au chevet de Paul Watson pendant toute sa détention. Vous êtes activiste, vous luttez à ses côtés, sur les bateaux, pour la défense des mammifères marins et donc des océans. Et moi, j'ai eu envie de vous connaître un peu mieux, Lamia, parce que bah, vous partez à l'abordage des baleiniers. Vous êtes une pirate. Ça vous va, ça, comme définition de pirate ?
Ouais, je crois qu'on se reconnaît assez bien dans ce qualificatif. Des pirates au service des baleines, pour le coup.
Hmm. Mais alors, pirate ou corsaire ? Parce qu'il y a une petite différence.
Dans les faits, plutôt pirate, parce qu'on travaille pour aucun gouvernement.
Mm-hmm. Oui, les corsaires, ils sont mandatés, hein, quand même.
Voilà,
ouais.
Les corsaires travaillaient notamment pour le gouvernement espagnol, anglais. Donc, nous, nos seuls patrons, finalement, c'est les animaux marins. Donc, si on est des corsaires, on est les corsaires des baleines.
Mmh. Qu'est-ce qui se passe si l'océan n'a plus de baleines et de dauphins ?
Eh bien, ça se joue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'un point de vue purement biologique, s'il n'y a plus de baleines, s'il n'y a plus de dauphins, on perd en fait le sommet de la chaîne alimentaire et les principales maraîchères du phytoplancton. Le phytoplancton, c'est ce qui fait de l'océan le premier organe de régulation du climat avant les forêts. Voilà.
Ah ouais.
Et les baleines sont particulièrement importantes parce qu'une baleine produit à peu près 3 tonnes d'excréments par jour. Et ces excréments sont très riches en fer et en azote, dont le phytoplancton a absolument besoin. Donc il y a même eu des calculs qui ont été faits pour calculer l'équivalent d'une baleine par rapport à X nombre d'arbres. Et en fait, vraiment, les baleines permettent à l'océan d'être le premier puits de carbone.
Ah ouais,
avant les forêts.
Faudrait planter plus de baleines, en fait.
Faudrait surtout arrêter de les massacrer, enlever les filets de pêche qui les capturent par milliers, arrêter de les polluer avec le bruit, la pollution plastique, chimique. Faudrait juste les laisser tranquilles, en fait.
Mm-hmm. Mm. Alors maintenant qu'on a expliqué l'utilité du mammifère marin pour l'océan, quel est notre lien, nous, à l'océan, en fait ? Si l'océan va mal, en quoi l'humain va mal ?
Encore une fois, tu vois, c'est cette histoire de biologie, donc ce qu'on appelle le service écosystémique avec l'océan qui régule le climat, où là, d'un point de vue très factuel, si l'océan meurt, on meurt. On n'a pas les conditions de vie possibles sur cette planète si l'océan meurt. Après, d'un point de vue plus philosophique et presque mystique, je dirais, un monde sans baleines, c'est un monde sans nous. Et déjà, je pense que si on n'est pas capable de sauver des animaux qui sont à ce point charismatiques, qui touche le cœur des gens. Tu vois, quand tu vois une baleine, c'est un souvenir qui reste gravé dans ta mémoire. Et donc, des animaux comme ça, si on n'est pas capable de les épargner, c'est qu'on n'épargnera rien d'autre dans l'océan.
Mmh.
Et tuer des baleines, c'est désenchanter le monde. Il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre d'une beauté universelle, presque de l'ordre du sacré, justement. On a tout désacralisé. Parce qu'on est tellement englué dans le matérialisme, dans le capitalisme, dans ce qui se compte, ce qui se voit, qu'on s'est coupé de la source avec un grand S. Et l'océan, c'est un peu ça. Et c'est la source aussi parce qu'on vient de l'océan. C'est le berceau, pas seulement de l'humanité, mais de la vie. Mmh. Parce que la vie a commencé dans les océans. Et en même temps, on s'est coupé du beau et du sacré, qui est complètement décorrélé du religieux. Hein.
Mmh.
Et voilà, il y a quelque chose d'assez magique avec les baleines dans le fait qu'elles parlent à notre âme.
Ouais. L'océan, c'est la source. C'est très joli comme phrase. Et pour autant, les Japonais mangent des sandwichs de baleine. Et c'est pour ça qu'on en vient à Paul Watson, qui a été incarcéré 5 mois, c'est ça, au Groenland, et menacé d'extradition au Japon pour s'être interposé face à un baleinier. Il a été libéré après que le Danemark a refusé son extradition. Avec le recul et un peu plus d'éléments qu'il y a quelques mois, l'ami Hessem Lali, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui ce qui s'est passé et une si longue détention ?
Alors c'est le résultat de beaucoup d'événements qui se sont passés au cours des précédentes années. Déjà avec cette fameuse notice rouge d'Interpol qui a été lancée contre Paul en 2012.
Ah oui, donc il avait Interpol aux fesses en fait.
Exactement. Ouais. C'est l'occasion aussi pour nous de braquer les projecteurs sur les défaillances fondamentales de la notice rouge d'Interpol qui est pointée du doigt parce qu'elle est de plus en plus récupérée à des fins politiques par des gouvernements pour traquer les dissidents, les activistes, les lanceurs d'alerte. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, un pays comme le Japon, par exemple, qui émet un mandat d'arrêt et qui demande à Interpol de mettre une notice rouge sur la tête de Paul Watson, Interpol ne vérifie absolument pas la validité des accusations qui sont faites. Rien. Leur réponse à ça, c'est de dire qu'ils n'ont pas assez de ressources humaines pour mener les enquêtes.
Ah, c'est toujours l'argument, ça.
Voilà. Alors, Paul, il a, dans son malheur, il a quand même une énorme chance, c'est d'avoir une certaine notoriété. Il a pu bénéficier d'un énorme soutien de l'opinion publique, d'un relais médiatique, et c'est ce qui lui a clairement sauvé la vie. Mais à côté de ça, il y en a des milliers qui sont beaucoup moins connus que lui et qui sont eux aussi traqués de cette façon-là, en utilisant justement le détournement de cette fameuse notice rouge d'Interpol. C'est pour ça qu'on va pas lâcher le morceau là-dessus et qu'on va challenger Interpol et mettre face à leurs responsabilités, parce que Interpol, c'est une police internationale qui est censée contribuer à rendre ce monde meilleur, donc en traquant les criminels de guerre, les tueurs en série, les grands trafiquants, et certainement pas à être utilisée et détournée pour traquer des activistes, des défenseurs de la planète ou de droits humains, et qui sont finalement traqués par des gouvernements qui utilisent Interpol comme un rouleau compresseur à leur avantage.
Alors qu'Interpol, il devrait être aux fesses des baleiniers plutôt, alors, parce que c'est interdit normalement la chasse à la baleine.
Et ben exactement. En fait, ce que cette histoire elle a de surréaliste à plusieurs niveaux, c'est que ce qui est reproché à Paul à travers Sea Shepherd et les actions dans le sanctuaire baleinier antarctique, c'est finalement d'avoir fait le boulot de tous ces gouvernements qui ont signé, ratifié la création du sanctuaire baleinier antarctique, qui ont signé l'entrée en vigueur du moratoire international sur la chasse commerciale des baleines en 1986. Et donc on a un pays comme le Japon qui, en toute impunité, viole chaque année ce sanctuaire et ce moratoire, qui a été condamné par la Cour internationale de La Haye en 2014 pour ses actions illégales en Antarctique, et qui se permet quand même, de traquer Paul Watson et d'utiliser Interpol pour le faire arrêter. Donc c'est complètement délirant.
Et comment va-t-il aujourd'hui alors ?
Non mais lui il va bien. En fait je pense que honnêtement c'est pas lui qui a le plus mal vécu toute cette histoire.
Ouais, c'est l'entourage.
C'est en fait pour nous c'était plus difficile parce que bon déjà lui c'est quelqu'un de très très stoïque. Donc très pragmatique. Donc bon il dit bon moi je suis en prison je peux pas faire grand chose. Voilà c'est ceux qui se sont battus à l'extérieur pour le faire sortir. La seule chose qui a été difficile pour lui ça a été la séparation avec ses enfants et le fait que vraiment c'était très très dur parce qu'il avait droit à 10 minutes par semaine. Pour parler à sa femme et ses enfants. Donc ça a été le côté difficile. Après, il est aussi très pragmatique. Où il s'est dit, mais en fait, on n'a jamais autant parlé de la chasse baleinière. Donc finalement, ce qu'ils sont en train de me faire, ça a pour effet de braquer les projecteurs sur leurs actions illégales. Et effectivement, ça a eu un effet en termes de communication. Ça a été hyper contre-productif pour le Japon et pour le Danemark. Oui.
Étant donné qu'il a toujours été prêt à risquer sa vie pour les baleines, il y avait un...
Mais voilà, en fait, de toute façon, risquer sa vie et sa liberté pour faire ce qu'on fait, c'est pas quelque chose que tu prononces en l'air. Pour le coup, c'est pas un slogan. Et il faut y être confronté. D'ailleurs, cette acceptation-là du risque, qu'on continue à demander d'ailleurs à tous ceux qui rejoignent les campagnes.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il vous a dit. C'est la première phrase qu'il a prononcée.
C'est la première chose qu'il m'a dit quand, en 2005, quand je l'ai rencontré à Paris. Je lui ai dit, mais c'est génial ce que vous faites. Moi, tout ce que vous dites, ça résonne tellement fort. Je savais pas que ça existait, moi, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais un peu engagée avec Greenpeace, WWF, parce que c'est les grosses assos qui ont pignon sur rue. Mais pour moi, c'était à défaut d'autre chose. J'avais envie de quelque chose de différent, de beaucoup plus interventionniste. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Paul et j'ai découvert l'existence de Sea Shepherd, je me suis dit, mais ça c'est fait. Je trouvais chaussure à mon pied. Le côté hyper combatif.
Mais qu'est-ce qu'il vous a dit alors comme phrase ?
Eh bien, il m'a dit, est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine ? Et j'ai dit oui. Il m'a dit, bon, alors postule. Il m'a aussi dit ça, je le dis moins souvent, mais il m'a aussi dit qu'il faut aussi être prête à laver les chiottes parce qu'en en fait, on fait absolument tout sur le bateau. Et j'ai aussi dit, ok.
C'est ça, être capitaine. Le capitaine du bateau, il doit être capable de s'occuper des chiottes.
Alors moi, je n'étais pas capitaine, mais voilà. Disons que ce n'est pas du tout une croisière. C'est vrai que c'est assez difficile. Et puis pour le coup, là, c'était aussi pour des campagnes en Antarctique, dans des conditions très très difficiles, en traversant les mers les plus dangereuses du monde, avec des tempêtes. Et puis le bateau qu'on avait à l'époque, c'était un petit bateau, hein, une petite coquille de noix. C'était un vieux bateau qui avait 50 ans d'âge et qui était 10 fois plus petit que les baleiniers qu'on allait affronter. Donc bon, voilà, c'était vraiment pour le coup David contre Goliath.
Et votre première mission? Vous pourriez nous raconter l'épisode dans l'Antarctique qui est fondateur, qui est vraiment la première fois que vous embarquez et qui est déjà dantesque en fait cette fois-là.
Alors la toute première fois que j'ai embarqué, c'était dans l'archipel des Galapagos.
Ah.
Mais cette première mission en Antarctique, elle a effectivement été fondatrice. C'était quelques mois après avoir rencontré Paul Watson. Et là, j'ai été confrontée effectivement à cette notion de risque. Est-ce qu'on est prêt à risquer sa vie ou pas? Parce que c'est une chose de le dire quand on est à Paris, très loin du terrain, et d'y être vraiment confronté. La façon dont on réagit, c'est hyper instructif. Et bon, en fait, on a trouvé le lendemain de Noël le Nishin Maru, qui est le navire-usine de la flotte baleinière japonaise. Mm-hmm. Donc nous, c'est vraiment le bateau qu'on cherchait à tout prix, parce que c'est celui à bord duquel les baleines sont hissées pour être dépecées et congelées. À partir du moment où on neutralise ce bateau, en empêchant en fait les baleines d'être hissées à bord, on paralyse l'ensemble de l'opération de chasse, parce que ça sert à rien pour les navires harponneurs d'aller tuer des baleines s'ils ne peuvent pas les découper et les congeler dans les 48 heures. Du coup, ce bateau, on arrive à le trouver par miracle, parce qu'on cherchait une aiguille dans une botte de foin, et on le trouve donc le lendemain de Noël par un jour de tempête avec une houle de 8 mètres de haut, et Paul nous dit « Génial, on va lui barrer la route ». Alors le Nishin Maru, il fait 8000 tonnes, nous on en fait 700. Et faut imaginer, hein, une houle de 8 mètres de haut, on est au bout du monde, personne pour vous secourir, et on est censé barrer la route de ce mastodonte. Et le bateau nous fonce dessus. Et le capitaine du Nishin Maru, il n'a pas envie de se dérouter. Et Paul nous dit, en fait, si on se déroute maintenant, autant rentrer à la maison. Ça ne sert à rien de dire qu'on est là pour bloquer la chasse, si en fait, au moment où il y a un danger, on se met sur le côté. Et là, à ce moment-là, ça va très très vite. On a juste, je me souviens très bien du bruit. En fait, ils avaient un haut-parleur sur le Nishin Maru. Et ils nous hurlaient de nous décaler, de nous déporter sur le côté. Et là, il y a le premier officier qui vient nous voir. Nous, on est tous en combinaison de survie. Et il nous dit, quand il va nous percuter, ça va couper notre bateau en deux. Et on va couler à pic. Espérance de vie dans l'eau de quelques secondes. Et il nous dit, bon, collision dans 2 minutes. Bon, et là, clairement, on se dit, collision dans 2 minutes, on sait qu'on n'a absolument aucune chance de s'en tirer, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Et alors, il y a deux choses qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là. C'est que je me suis dit, c'est quand même vachement plus simple de signer des pétitions. C'est moins engageant. Mais vraiment, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, Et la deuxième chose, c'est de me dire, je ne vais pas revoir ma famille. Ça s'arrête ici. C'est là que tout s'arrête. Mmh. Et alors, il y avait la peur. Évidemment, on avait tous peur. Mais pour moi, ce qui a été très, très, très important, c'est que j'avais envie d'être nulle part ailleurs. Pour moi, là, c'était un moment de vérité. Parce que je me suis dit, je sais que je suis exactement là où je dois être. C'est la mort dans 2 minutes et je suis là où je dois être et je ne voudrais pas être ailleurs. Et ça, ça a été hyper fort et ça m'a conforté vraiment dans la nature de l'engagement et la notion de juste.
Ouais.
Et voilà, et si je suis là pour raconter l'histoire, c'est que le capitaine du Nishin Maru a viré de bord au dernier moment. Alors, il faut savoir qu'on était quand même 45 membres d'équipage de 23 nationalités différentes. Donc imagine un peu l'incident diplomatique international que le Japon aurait eu sur le dos à avoir tué une quarantaine de personnes qui sont dans un sanctuaire baleinier en train d'essayer de faire respecter le moratoire sur la chasse baleinière. Enfin, je pense qu'il a dû appeler Tokyo, ils lui ont dit tu vas te dérouter. Et donc voilà, mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est important de savoir à quoi on s'est engagé quand on est monté à bord. Et de ne pas se dire, non mais attends, moi j'ai pas signé pour ça, moi je voulais juste mettre une banderole et c'est tout.
Et à bord, à ce moment-là, est-ce que tout le monde est d'accord ?
Ah oui, tout le monde est d'accord. Il y a eu, si tu veux, par le passé, des moments où il y a des gens qui ont dit « Non, mais t'es complètement fou, Paul Watson, complètement barré. » Et en fait, c'est aussi pour ça que, du coup, il est très, très clair dès le départ. Mm-hmm. Tu sais à quoi tu t'engages. C'est pas pour tout le monde, si tu veux. Il y a mille et une façons de s'engager. Et en plus, moi, je hiérarchise même pas, en fait, si tu veux. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas plus de mérite à faire ça qu'à s'engager à l'année dans un groupe local de Sea Shepherd, faire des événements, aller dans les écoles, mm-hmm. Parce qu'on fait beaucoup d'interventions dans les écoles, on fait des conférences, etc. C'est hyper important. Et si on arrive justement à être sur le terrain et à faire ces missions-là, c'est parce que à terre, il y a des gens qui se mobilisent aussi près de chez eux et qui contribuent, si tu veux, à partager et à sensibiliser, à diffuser le message. Et en plus de ça, si tu veux, je me souviens aussi que des gens nous disaient oh, merci beaucoup pour votre sacrifice. Bon, c'est vrai qu'on passait Noël, les fêtes loin de chez nous. Bon. Mais pour moi, ça sonnait faux parce que j'avais pas l'impression d'être une sacrifiée. Et je vais te dire, mais on est récompensé au centuple. Moi, pendant des mois, j'ai vu que des icebergs, des baleines, des manchots. J'ai été dans un endroit absolument mystique, absolument magique. Mm-hmm. Ça n'a pas de prix, ça, tu vois. Et vraiment, à aucun moment, j'ai eu le sentiment d'être une sacrifiée. Plutôt d'être une privilégiée, parce que pour le coup, il y a quelque chose qui m'anime, qui me pousse, qui me porte. Mm-hmm. Et grâce à cet outil qu'est Sea Shepherd, j'ai la possibilité de le mettre en action. Et donc, c'est une chance extraordinaire.
Résultat, après cet épisode, quand il y a 70 pêcheurs au fond de votre jardin pour vous intimider, ça vous fait plus peur. Est-ce qu'il y a un avant et un après cette trouille ?
Ouais, alors, bon, ça, c'était des années après, hein, l'épisode sûr, dont tu parles. Mais je vais te dire, je pense même pas que ce soit lié à ça. Moi, j'ai grandi dans une banlieue difficile, hein, où fallait être fort de caractère, parce que sinon, s'il y a marqué victime sur ton front, tu te fais complètement bouffer. Donc, j'ai toujours eu un tempérament...
À Gennevilliers ?
Oui. Ouais. Et puis, Gennevilliers, dans les années 90, c'est pas le Gennevilliers d'aujourd'hui.
Ah, c'est-à-dire ?
Non, c'était une plaque tournante des trafics de drogue, avec les gars qui tiennent les murs des cités. Quand t'es une fille et que tu évolues dans ce milieu-là, t'as intérêt à avoir du caractère et à savoir te défendre. En plus, moi, j'avais pas de grand frère, donc voilà, c'était tout pour ma pomme. Et c'est une école, hein. Et donc voilà, non, quand il y a ces pêcheurs-là qui ont débarqué chez moi, je pense d'ailleurs qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que je leur tienne tête comme ça, mais pour moi, c'est naturel. Et donc, ouais, il y a la petite Lamia des cités qui a, qui a repointé le bout de son nez, et voilà, j'ai trouvé ça intéressant en fait.
Ouais. Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
On évoquait cette fameuse phrase, est-ce que tu es prête à mourir pour une baleine ? Il ne vous a pas dit pour les baleines, il vous a dit pour une baleine. Donc vous pourriez vous sacrifier pour une seule, c'est ça l'idée.
Mais qui sauve une baleine, les sauve toutes.
Et maintenant que vous êtes maman, est-ce que cette phrase-là, vous la réévaluez ?
Non.
Parce que maintenant, il y a charge de vie quand même.
Bien sûr. Alors...
Paul Watson aussi, d'ailleurs, il est père.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de changement fondamental dans l'engagement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas attendu d'être maman pour me soucier de l'état de la planète et de ce qu'on va laisser aux générations futures. Mais aujourd'hui, en plus, je suis maman. Et donc, il y a ça qui s'ajoute dans le sens quel va être le monde dans lequel va grandir ma fille. Non, le plus difficile dans le fait d'être maman, enfin, ce qu'il faut concilier, au-delà de la question du risque, qui n'est quand même pas non plus quotidienne, on ne risque pas notre vie tous les jours. Par contre, c'est le fait de trouver cet équilibre et la place aussi à laisser au rôle de maman qui est fondamental. Et en même temps, ce sacerdoce qui est Sea Shepherd, parce que c'est un peu mon bébé aussi. Et donc, ce à quoi je fais attention, c'est aussi à ce que ma fille n'ait pas l'impression d'être secondaire. Et en plus, elle a un papa qui est engagé lui aussi, qui part très souvent à Mayotte pour sauver les tortues qui sont tuées à la machette. Et je me souviens de ma fille qui disait... j'ai plus envie que papa sauve les tortues. Parce qu'il avait manqué son anniversaire, Noël, la fête des pères. Et voilà. Donc on essaye maintenant quand même de sanctuariser certains moments.
Ah, ça être fille de pirate, c'est quelque chose, j'ai l'impression.
Ah ben ouais. Et puis surtout, en plus, quand il y a les deux parents. Mais je pense que le fait qu'on soit tous les deux impliqués, ça fait aussi qu'on se comprend. Sinon, je sais pas, mais accepter que son conjoint soit absent tous les Noëls parce qu'il est en train de sauver des tortues. Bon.
Vous nous avez dit, l'ami SM Lali, que vous veniez de Gennevilliers. Donc, ça veut dire que vous avez grandi loin de la mer. Alors, vous vous rappelez la première fois que vous avez vu la mer ?
Oui, je m'en rappelle. Et j'ai écrit là-dessus parce que c'est un événement un peu fondateur. J'étais très jeune, je devais avoir 3 ans. Et je suis dans les bras de ma mère qui, en fait, les vagues arrivent et elle me soulève au dernier moment à chaque fois qu'une vague arrive. Et je me souviens de cette crainte, est-ce qu'elle va me soulever à temps ou est-ce que je vais me prendre la vague ? Il y a cette petite appréhension-là. Et en fait, à chaque fois, heureusement, elle me soulève à temps et je ne vois pas la tasse. Et du coup, il y a ce rapport-là à l'océan qui est très, très ancien, puisque c'est mon tout premier souvenir. Mais après, c'est des souvenirs qui sont liés à l'enfance et l'adolescence, où, pour le coup, pour moi, l'océan que j'ai connu au Maroc.
Mmh, à Casablanca ?
À Casablanca, mmh. Puisque mes deux parents sont d'origine marocaine. Et donc, j'avais quand même cette chance d'y aller très régulièrement. Et ça détonnait tellement avec l'univers dans lequel je grandissais en France, puisque en banlieue, avec en plus une cité où architecturellement c'était quand même très carcéral, il n'y avait pas d'horizon, c'était des grandes tours qui se fermaient sur elles-mêmes, complètement bitumées. Et donc pour moi, l'océan, ça a représenté l'horizon au sens propre et au figuré, le milieu sauvage, la liberté. Et c'est après que j'ai eu cette conscience écologique de me dire « Ah maman, en plus l'océan va pas bien parce qu'on le pollue, parce qu'on tue les animaux marins. »
Et cet éveil écologique, vous vous en rappelez ? Il arrive que vous racontiez que c'est dans la cour d'école quand il y a un oiseau mort, c'est une légende ?
Alors, un oiseau blessé.
Un oiseau blessé,
et en fait, cet éveil écologique, il découle d'une empathie envers les animaux. Cet oiseau blessé dans la cour, j'étais en CE2, tout le monde s'en fichait. On nous a dit de rentrer en classe, on s'en occupe pas, on ne l'aide pas. Et je me souviens que ça m'avait vraiment perturbée. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'aide pas ? Si c'était l'un d'entre nous, il serait à l'infirmerie, on l'aiderait. Et là, c'est un oiseau, donc on s'en fiche. Et ça a été ma première confrontation avec, avec le spécisme, avec le fait que cet être qui souffre, en fait, on ne va pas l'aider. Sa souffrance, elle n'est pas importante parce que ce n'est pas un être humain. Et pourtant, j'ai mangé des animaux pendant longtemps. Comme beaucoup de gens, hein. Je pense qu'il y a énormément de gens qui mangent des animaux qui seraient absolument incapables de tuer eux-mêmes.
La différence, c'est que vous leur donniez un prénom avant de le manger, peut-être, non ?
Qui ça, moi ? Non ! Ah non, non, alors pour le coup, non, j'ai jamais mangé ma tourterelle. Mais ma première rencontre avec des végétariens, même des véganes, c'était sur les bateaux de Sea Shepherd, en 2005. Alors qu'à l'époque, je mangeais encore de la viande et du poisson, hein. Et pour la première fois, je me suis retrouvée avec des gens qui allaient encore plus loin que moi dans l'engagement. Parce que moi, j'ai toujours été au collège, au lycée, j'ai toujours été la Brigitte Bardot de service. Et donc, j'étais un peu la plus radicale du groupe parce que j'adorais les animaux. Mais là, je me suis retrouvée avec des gens qui mangeaient pas du tout d'animaux, qui ne mangeaient pas de sous-produits animaux. Enfin, c'est vraiment vegan. Et ça a été, mine de rien, ça a été assez instructif parce que j'ai aussi été jugée. Mmh. On m'a dit, mais comment tu peux dire que tu aimes les animaux alors que tu en manges ? C'est pas ça qui m'a fait arrêter d'en manger. Donc en fait, j'ai eu un choix personnel à faire. C'est-à-dire, soit je continue à les manger. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tout ce que je considérais être si important pour moi, même faire partie de moi et motiver mon engagement, tout ça finalement, c'était assez superficiel. Et ça ne faisait pas le poids face au plaisir gustatif que je pouvais tirer dans le fait de manger un burger. Et dans ce cas-là, il fallait que je ferme ma bouche. Parce qu'en fait, pour moi, ça voulait dire que je n'étais pas celle que je pensais être. Que j'étais une imposture, tu vois. Soit, finalement, l'idée d'être une imposture m'était insupportable. Et au final, je suis ramenée par cette conviction profonde. Et dans ce cas-là, je mets mes actes en adéquation avec ce que je pense être. Et donc, c'est là que j'ai fait le choix et que j'ai pas fait de retour en arrière. Parce que j'avais fait des rechutes. Tu vois, j'avais essayé d'être. Ouais. Mais après, les barbecues entre amis, j'étais aussi dans mon groupe d'amis. Il n'y avait personne qui était végétarien et encore moins vegan. Et bon, voilà, j'ai des rechutes. Parce que j'adorais le goût de la viande, parce que moi, j'adorais les sushis. Quand j'étais ado, je bouffais des kebabs et je bouffais au McDo. Et voilà, j'ai eu tout ça, quoi. Et donc, c'est une sorte de désintoxication aussi, parce qu'on est habitué à ça. Toute mon enfance, j'ai eu le « mange ta viande, termine ta viande », enfin, tu vois.
Oui, vos parents, s'ils achetaient de la viande, il fallait la terminer, j'imagine. Vos parents ne roulaient pas sur l'or, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre maman, femme de ménage, votre papa tenait une épicerie, c'est ça ?
Oui, et j'ai pas grandi avec mon papa, en plus. Ouais. Il est parti quand j'étais toute petite. Mais
Vous dites que vous avez vécu l'immigration de vos parents comme une malédiction, c'est-à-dire ?
Parce que, imagine, Moi, l'été, quand je suis au Maroc, je suis sur la plage, face à l'océan, avec toute la famille qui est là, les cousins, les cousines. Enfin, c'est extraordinaire. Et le reste de la vie normale, ben, c'est en banlieue parisienne, dans le bitume, la grisaille. Et j'ai très peu de famille ici, en fait. Et donc, très clairement, je disais à ma mère, mais pourquoi tu es venue vivre dans ce pays, en fait? Alors, aujourd'hui, j'ai découvert que la France, c'est autre chose que Gennevilliers dans les années 90. Et aujourd'hui, j'essaie de prendre les avantages de chacun. J'ai pour habitude de dire que le Maroc, c'est mes racines et que la France a été mes ailes. Parce que j'ai conscience aussi que bah, y a beaucoup de choses que j'ai pu faire aussi parce que j'ai grandi en France.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Lamia Essemlali, qui est la présidente de Sea Shepherd France. Alors communiquez-nous le procédé de Sea Shepherd France quand vous partez en mission, en opération pour sauver les baleines ou sauver les dauphins sur les côtes de Gascogne. On peut prendre un ou deux exemples. Comment vous procédez?
Alors, bah, y a presque autant de méthodes que de campagnes, en fait. Dans le golfe de Gascogne, la problématique des dauphins qui sont pris dans les engins de pêche, c'est qu'on est face à des opérations de pêche qui sont légales, mais un énorme déni du secteur de la pêche avec une ignorance du grand public qui ne sait même pas qu'il y a des dauphins en France. Nous, quand on a commencé cette mission en 2018, on a commencé à exposer des cadavres de dauphins dans les centres-villes. Pourquoi? Parce qu'on voulait créer un électrochoc, parce que je voyais bien que les scientifiques tiraient la sonnette d'alarme sur le nombre de captures et qu'en fait, personne n'en parlait. Donc on se dit, bon, comment on va faire pour qu'on en parle?
Il fallait être radical, mais pas illégal, c'est ça l'esprit?
Alors, bah, pour le coup, figure-toi que cette exposition de cadavres de dauphins, c'est la seule action qu'on fait. Bah, qui n'est pas légal.
Ah ouais?
Parce que les dauphins sont une espèce protégée et qu'en fait, tu n'as pas le droit de les transporter, de les exposer, etc. Bon, nous, ces dauphins, on les amenait toujours après à Pélagis, donc c'est le centre scientifique qui fait les autopsies. Donc, si tu veux, on ne peut pas nous soupçonner de faire du trafic de dents de dauphins, parce que c'est pour ça aussi que c'est interdit. Et puis surtout, quand on a été mis en garde à vue pour avoir fait ça, j'ai toujours dit aux équipes, en fait, on ne signe pas de rappel à la loi, parce qu'ils nous disent, vous signez un rappel à la loi et ça s'arrête là. Sinon, c'est procès. Donc je dis, on ne signe pas de rappel à la loi. On n'a pas oublié la loi. On n'a pas besoin qu'on nous la rappelle. En fait, ce qu'on fait est dans l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est de préserver ces dauphins. Aujourd'hui, ces dauphins, ils meurent par milliers dans l'indifférence générale. Et la France est en infraction vis-à-vis de ses responsabilités. Mm-hmm. D'ailleurs, on a attaqué le gouvernement au tribunal administratif. On a gagné. Et donc, voilà, on assume complètement. Mm-hmm. Et moi, je voulais qu'il y ait un procès.
Pour médiatiser la chose.
Ça ferait une tribune médiatique et puis on verrait, en fait, ça aurait été le procès du gouvernement, en fait, de la France qui n'assumait pas ses responsabilités. Donc, eh ben, on n'a jamais été jusqu'au procès.
Mais ça fait 20 ans, cette mission en Antarctique, dont tu nous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'en 20 ans, l'activisme écolo a beaucoup évolué?
Moi, je trouve que le curseur, il s'est déplacé, notamment par rapport à ce qu'on estime être des actions extrémistes ou radicales. Aujourd'hui, je trouve que le modus operandi de Sea Shepherd, il est quand même beaucoup plus compris qu'avant. Et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience aussi dans l'opinion publique sur le fait que se contenter de signer des pétitions, ça va pas suffire. Et qu'il faut être proactif. Et puis, je pense qu'il y a aussi une perte de confiance, à juste titre, dans les capacités et surtout la volonté des pouvoirs publics à protéger le patrimoine commun et l'intérêt des générations futures. Si tu veux, qu'est-ce que tu fais quand tu vois que ceux qui sont en charge, en responsabilité de préserver les écosystèmes et les espèces ne font pas le job? Soit tu te lamentes, tu t'énerves mais depuis ton canapé, ou tu signes éventuellement une pétition. Soit tu te dis que va falloir prendre les choses en main. Et nous, on se base beaucoup sur la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies, qui justement légitimise les actions des individus et des ONG pour faire respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement. Parce que on parle de quelque chose qui nous concerne tous. Tu vois, et en fait, l'océan, les espèces protégées, elles n'appartiennent pas au pouvoir public. Ils ont la responsabilité de les préserver. Mais finalement, s'ils ne le font pas, on n'est pas tenu d'être attentiste et de regarder le monde s'effondrer parce que ceux qui sont aux manettes ne font pas le job.
Alors, une dernière question, Lamia Essemlali. On vous a donc présenté comme pirate. Ce serait quoi votre trésor caché?
Mon trésor caché? Je dirais qu'aujourd'hui, mon trésor caché, c'est la capacité d'émerveillement. Et le fait qu'aujourd'hui, je tire ma force plutôt de cette capacité d'émerveillement que d'un sentiment de culpabilité qui m'a beaucoup poussée au départ, qui est très destructeur. Donc j'ai un peu évolué par rapport à ça. La plus grande force, c'est la force de l'amour, l'amour du vivant, le lien, la connexion. Je me sens vraiment connectée au vivant, aux baleines, à un tout. Je me sens en faire partie. Et en fait, c'est le meilleur remède que j'ai trouvé contre le sentiment d'isolement, d'impuissance, la perte de sens. Mais tu vois, il y a une énorme perte de sens. Cette dépression ambiante, la recrudescence de maladies mentales, les taux de suicide qui explosent. Tu vois, parce qu'on s'est tellement enfermé dans cette matérialité, on s'est tellement coupé de la source avec un grand S, tu vois, du grand tout.
On est plus connecté au réseau qu'à la nature.
Et oui. Et d'une manière générale, on s'est rendu nous-mêmes orphelins. Déjà en détruisant les autres espèces, en détruisant la nature dont on fait partie, on a oublié qu'en fait, on en fait partie et donc c'est nous qu'on détruit. Et ce lien-là, cette mémoire-là, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, c'est ce qui me donne une énergie positive et une force pour continuer à avancer. Ouais.
L'émerveillement, donc. Ouais. Ça, c'est le trésor caché de Laïmia Msemlali. Et aussi, trésor caché, on en a besoin pour Sea Shepherd France, pour sauver les dauphins, les baleines, l'océan et donc nous-mêmes. N'hésitez pas à faire un don.
Alors surtout sur Sea Shepherd France. France, parce que non, mais je précise, parce que tout le mouvement, malheureusement, n'est pas resté loyal et fidèle envers cet ADN d'origine qui est celui de Paul Watson.
Vous, c'est canal historique.
Exactement, exactement. C'est important. Mais c'est toute une autre histoire qu'on racontera peut-être lors d'une prochaine émission.
Avec joie. Merci beaucoup, Laïmia Msemlali.
Merci, Charline.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin, réalisateur. Merci à Romain Luquins, à la technique, et Juliette Petit au mixage. On se retrouve samedi prochain à 19h20.